Bélanger.
C'est Boulevard 102.1, la radio locale qui vous donne une voix.
Gravel.
Hey, vous autres, vous longez pas, vous autres, vous faites la bonne après-midi, là.
Dans le retour.
Mais je vous écoute, vous êtes la gang en ville.
h 02 à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. On est là jusqu'à 18h. Véro, peut-être rappeler la nouvelle de dernière heure concernant un ministre qui ne se représente pas. Il commence à être minuit moins 5 pour faire ces annonces-là.
Parce que la date qui circule actuellement pour le déclenchement des élections, c'est le 27 août. On est rendu le 19. Benoît Charrette, l'actuel ministre des Transports et député de Deux-Montagnes, a annoncé qu'il ne ferait pas un cinquième mandat à l'Assemblée nationale pour des raisons familiales. Il avait été élu une première fois en 2008. Puis sa décision, il dit que ça a été difficile à prendre, mais que c'est pleinement assumé. Être Christine Fréchette, je serais un peu en maudit.
Mettons que c'est quelqu'un qui part à minuit moins 5, puis étant donné que tu es responsable des transports, c'est comme un désaveu sur les projets que tu promets, entre autres, dans la région de Québec.
Effectivement.
Ouais. Être dans la circulation, Audrey?
Pas facile en ce moment. Si vous êtes sur la capitale direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, toujours au ralenti direction Ouest, c'est entre Henri Bourassa et Laurentienne. Robert Bourassa, c'est toujours congestionné entre Charest et la capitale. Si vous êtes sur Henri IV Sud, de la capitale au pont, super difficile en ce moment. Direction Nord, ça se passe entre Wilfrid Amel et la capitale. Duplessis Sud, c'est entre Charest et les ponts. Il y a encore ces ralentissements dans le coin de Shannon, là, devant la base militaire, route de la Bravoure, dans les deux directions. Si vous êtes sur la 20 direction Ouest, entre Monseigneur Bourget et Chemin des Îles, c'est toujours pas débloqué. Direction Est, c'est entre Chemin du Sault et Taniata. Guillaume Couture, c'est lourd entre Chemin des Îles et Taniata en ce moment dans les deux directions. Derrière Chemin des Îles à la hauteur de la 20, ça débloque pas non plus. Et il y a ce nouveau secteur qu'on explore ensemble depuis deux jours là, dans le coin de Saint-Henri, donc près du carrefour giratoire. Quand vous prenez le carrefour giratoire et que la route du président Kennedy devient la rue commerciale...
Dans quoi, l'église, là?
Oui. Commence à y avoir un ralentissement jusqu'au croisement avec Chemin des Îles, un peu avant le pont.
C'est bien?
Ça s'améliore.
C'est presque mieux, oui, oui, oui.
Je
pense qu'on est dans la bonne direction.
L'avez-vous compris? 88-971-102, je pense que l'on se situe.
Qui que tu connais qui reste dans ce coin-là?
Ben personne.
Personne,
c'est juste,
ouais,
c'est vraiment,
clairement.
C'est vraiment, ouais. Non, mais c'est un ralentissement qui est intense et pertinent, là. Mm-hmm. C'est à mentionner. Moi, on m'a dit, faut tout que tu dises.
Oui.
Ça fait partie des choses à dire.
Puis c'est ce qui fait ta force. Tu dis tout.
Oui.
Vraiment tout.
Donc, 418-971-102, texto.
Et par téléphone, le 418-780-1021. Et les coachs familiales en studio avec nous. Nancy Doyon, SOS Nancy, salut.
Salut, salut.
Oh, le gros sujet aujourd'hui. On va parler des mensonges.
Aucun lien avec le sujet précédent.
Non, 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 absolument pas.
Puis toi, Nancy, t'as tout.
mensonges chez nos enfants, chez nos ados. Pourquoi est-ce qu'ils nous comptent des menteries? C'est pas de même qu'on les a élevés, ces enfants-là.
Hey, c'est blessant et c'est enrageant comme parent.
C'est terrible.
Mais rappelez-vous donc votre adolescence à vous. Ne mentiez-vous pas à vos parents? Pensez-y, là. Faites un petit retour. Là.
En fait, il y a des détails que j'évitais soigneusement.
Ouais, mentir
quand
par omission.
Quand j'étais jeune, je mentais pour pas me faire chicaner.
Aussi.
Puis on dirait que quand on vieillit, moi, je mentais moins, mais je contournais ou je... Tu sais,
ça revient au même.
C'est ça, de l'émission. Non, non. Hein, on oublie de dire certaines affaires. Ouais. Quoi d'autre? Vous autres, avez-vous fait ça, compter des menteries?
Racontez-vous encore?
Moi, ouais, ça aussi, c'est une question à se poser comme parent. Mais,
moi, je me souviens que, écoute, même mis devant l'évidence, je disais non, c'est pas moi qui a vidé biscuits. Non, je
m'entêtais.
Même si t'avais
une graine d'Oreo dans la face.
Sincèrement, là, puis je pense que mes parents pourraient approuver, peut-être par culpabilité, mais j'étais pas capable de tenir un mensonge. Fait que si j'avais le malheur de dire non, le lendemain, je pleurais, puis j'étais comme, mais oui. Fait que j'ai jamais été... j'étais pas ce type d'ado-là, visiblement.
Ouais. Moi, j'ai toujours été une très, très mauvaise menteuse, puis ça me crée de l'anxiété comme ça se peut pas. Mais il me semble que j'ai fait ça. À quelque part, le mensonge chez les ados, ça nous insulte, ça nous froisse, mais c'est en partie normale.
C'est quoi, c'est de la construction?
Bien, tu sais, une des jobs de l'adolescent, c'est de s'éloigner de son parent, puis de construire son propre monde, son propre système de valeurs, ses propres affaires. Puis des fois, comme parent, on est un peu intrusif, on est un peu contrôlant, on lui pose mille et une questions, puis on est beaucoup là. Puis il peut y avoir plusieurs raisons là, pour lesquelles ils mentent, mais tu sais, je pense que des fois, c'est comme une des façons qu'ils prennent pour se détacher de nous. Tu le disais, Véro, je disais pas tout à mes parents. Pourquoi tu disais pas tout à tes parents? Moi, écoute, j'avais des parents ultra ouverts. Je pouvais tout leur dire. Et néanmoins, je leur disais pas tout.
Ouais.
Parce que
c'est moi, à l'inverse, j'avais des parents qui étaient hyper sévères. Fait que pour éviter trop de questions ou éviter de me faire bloquer des activités, des ci, des ça, ben je disais pas tout.
Exact. Mais moi, j'aurais pu dire tout, mais je le disais pas. J'avais besoin d'avoir mon monde à moi, mon univers à moi.
Mais en tant que parent, Nancy, comment on fait la différence entre je mens pour acquérir mon indépendance ou je mens parce que je vais être un menteur dans la vie, mettons, là?
Ben en fait, ils sont très rares ceux qui vont devenir des menteurs compulsifs par la suite. Mais tu sais, bon, ça peut être parce que c'est pour mon indépendance, ça peut être justement pour me sauver les fesses parce que j'ai peur de d'être puni, j'ai peur d'avoir un gros sermon, j'ai peur qu'on me coupe mes libertés, j'ai peur de décevoir mes parents, mm-hmm. j'ai peur qu'ils me voient, qu'ils me perçoivent négativement. Ça peut être juste pour le fun, hein? Le plaisir de voir est-ce que je vais réussir à les embobiner. Ça va-tu passer, mon affaire?
Ouais.
Ça peut être par opposition. T'sais, moi, je suis spécialisée dans la vie auprès des enfants qui ont des troubles de comportement. T'sais, fait que là, il y a comme une différence entre l'espèce de mensonge semi-blanc. Là, t'sais, le jeune, effectivement, il ne va pas se faire chicaner, fait qu'il ne dira pas que c'est lui et biscuit. Il va se trouver une bonne excuse pour être rentré en retard, puis il va s'inventer une histoire pour voir s'il va s'éviter une punition. Mais tu as des jeunes qui mentent de façon régulière, carrément pour faire suer leurs parents. Là.
Ouais.
Suer le parent, l'idée, c'est... Puis ceux-là, là, ça va être souvent des mensonges très gros. Puis à quelque part, ils font quasiment exprès de se faire pogner parce qu'ils veulent créer une confrontation.
Mais pourquoi tu peux vouloir chercher la confrontation? C'est dans le type de personnalité? C'est dans la dynamique familiale?
Ben écoute, ça peut être plein d'affaires, mais tu sais, les jeunes qui ont des troubles de l'opposition... On, une des caractéristiques, c'est qu'ils cherchent le trouble.
Okay.
Et ils sabotent beaucoup les relations avec leurs parents. Fait que, et souvent, tendance à vouloir se venger. Fait que, t'sais, donc, fait que ça, c'est une autre catégorie. Là, t'sais.
Okay.
Puis ça serait comme bien long de l'élaborer.
Mais... Si on ne rentre pas dans la catégorie des extrêmes, comment on doit agir quand on sait qu'on se fait bourrer par un ado, mettons? Là? Faut-tu faire une enquête sur chaque mensonge? Faut-tu le dire à toutes les fois « Je sais que tu me mens parce que, ou comment on doit... Parce que moi, je te le dis, là, je suis dans ce bout-là. Là.
Ben, parce que c'est le bris de confiance qui vient avec aussi.
Oui, exact.
Ben, écoute, on va commencer par dire quoi ne pas faire.
OK.
Quoi ne pas faire, c'est... T'as scrappé ma confiance pour toujours. Tu viens de me prouver que je peux pas te faire confiance. Mm-hmm. Garde encore une fois, je t'ai fait confiance, regarde comment tu m'as menti. Fait que tout ça
aurait tellement été mon premier réflexe de dire des affaires de
moi. Et le premier réflexe de plein de gens.
Ouais.
Mais ça écrase un jeune et ça risque de l'amener à mentir encore plus pour essayer de protéger son estime personnelle. Puis on risque de scraper un peu le lien. Par contre, on va lui dire qu'on est déçu. On va lui dire qu'on pense sincèrement qu'il nous a menti. Et c'est correct qu'on parle de confiance. C'est correct qu'on lui dise, tu sais, la confiance, mon grand, là, c'est pas un droit, ça. Puis c'est pas quelque chose que tu gagnes à l'auto. C'est quelque chose qui se construit et qui peut se déconstruire.
Et c'est dur à rebâtir aussi.
Et c'est dur à rebâtir. Ouais. Fait que, tu sais, de dire, ben présentement, actuellement, puisque tu m'as menti à plusieurs reprises, j'ai de la misère à avoir confiance et j'ai de la misère à savoir voir si ce que tu me dis est vrai ou pas. Et ça va être ta job, mon grand, ma grande, de rebâtir cette confiance-là. Fait que c'est pas tu l'as perdu pour toujours, tu m'as prouvé que t'es, tu sais, puis pas tomber non plus dans t'es un menteur, je peux... Mais juste de dire, ben ça va être ta job. Puis là, ben d'ici là, tu vas devoir assumer le résultat du manque de confiance que j'ai en toi.
Ouais.
Donc, ça se pourrait que je vérifie un petit peu plus tes messages. Ça se pourrait que je vérifie où est-ce que t'es. Ça se pourrait que je mette en doute quelque chose que tu m'as dit, puis des fois, ça va peut-être être une vérité, puis tu vas voir dans ma face que c'est pas sûr que je te crois. Fait que là, t'as fait des gaffes. Maintenant, ben, ça va prendre quelques semaines, quelques mois à réparer ces gaffes-là. T'as un choix à faire, mon loulou, là. Ou bien tu continues de mentir, puis de briser tout le temps cette confiance-là, et tu vas devoir vivre avec. Ou bien tu fais le choix de réparer ça et de montrer progressivement que je peux recommencer à faire confiance en toi.
Que tu regagnes la confiance.
C'est ça, puis que tout le monde en fait des erreurs dans sa vie. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup, moi, remettre la responsabilité aux jeunes puis lui dire, bien, vis avec, mon loup.
Essayez de savoir pourquoi il y a eu un mensonge. Est-ce que c'est payant ou ça risque plus de créer de confusion qu'autre chose?
Tout dépendra toujours du ton et de la façon dont je vais l'amener. Tu sais, c'est sûr que dire à un jeune « Mais pourquoi tu m'as menti? Oui. » Là, le garde, je t'ai fait confiance, le garde, encore une fois, tu m'as menti. Pourquoi t'as fait ça?
T'es toute une comédienne aussi.
On se reconnaît là-dedans, pareil.
Mais c'est sûr que si ça sonne de même, mon jeune va tomber sur la défensive. Mm-hmm. Si ça sonne plus à « Qu'est-ce qui t'a amené à faire le choix de mentir dans cette situation-là? » Je te le cacherai pas. Puis, tu sais, parler de façon honnête et authentique, je te cacherai pas que je suis déçue que tu m'aies menti. Je te cacherai pas que ça me blesse. Maintenant, j'ai déjà menti moi aussi. Dans cette situation-ci, qu'est-ce qui t'a amené à...
J'aimerais comprendre.
J'aimerais comprendre, ouais, c'est ça, ça m'intéresse. Et parfois, si on a une belle discussion ouverte, au bon moment aussi. Tu sais, si c'est tout de suite, mon jeune arrive, puis là, je vois bien qu'il m'a menti, puis là, il voit bien que je suis déclenchée au niveau émotionnel, puis que j'essaie d'avoir une réponse là, ça ne marchera pas. Souvent, je suggère aux parents, surtout aux parents d'ados, d'avoir des discussions à froid. Laisse passer la patente. Là, tu sais, du genre tes émotions, laisse-les baisser son système d'alarme.
J'appelle ça les conversations de lendemain matin, moi.
Oui, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le lendemain matin, puis des fois, c'est le surlendemain, là.
Ouais.
Dire, OK, il s'est passé telle chose cette semaine, j'aimerais ça comprendre. Qu'est-ce qui t'a amené à me mentir? Non, je t'ai pas menti. Regarde, je sais que c'est un mensonge. Puis des fois, on peut même aller à la pêche. C'est-tu parce que tu avais peur que je te chicane?
Mm-hmm.
C'est-tu parce que tu avais peur que d'être puni? Est-ce que c'est parce que t'as peur de me décevoir? Puis des fois, dans le non-verbal, on va voir un petit peu ce qui se passe. Mais tout va jouer sur mon attitude.
Quand on a un jeune ou un ado qui nous a menti une couple de fois en ligne, comment on fait en tant que parent pour pas devenir... paranoïaque à la limite, là. Tu sais, comment on la regagne, cette confiance-là, justement, envers notre jeune?
Bien, tu sais, moi, je pense que les mensonges qui sont graves se méritent d'avoir une conséquence.
Mm-hmm.
OK? J'aime beaucoup la notion de faute avouée à demi pardonnée. Mm. Fait que, tu sais, si t'oses m'exprimer tes affaires, bien, tu vas devoir assumer les résultats normaux de tes choix, mais je vais pas t'engueuler par-dessus. Maintenant, comme je disais tantôt, ben, tu sais, si mon jeune a menti plusieurs fois, ben, je vais peut-être être paranoïaque et je vais peut-être même exagérer ma paranoïa pour lui faire assumer cette conséquence normale-là.
Okay.
En disant, écoute, dans la vraie vie, là, maintenant, tu vas avoir une blonde, tu vas avoir un chum.
Ouais.
Si tu y mens, là, ben, attends-toi à ce que ça insécurise la relation. Attends-toi à ce que cette personne-là te questionne davantage pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Fait que oui, pendant un certain temps, j'aurais tendance à dire, ben oui, je vais vérifier parce que...
C'est pas le fun.
Ben non, c'est pas le fun.
Je suis là-dedans présentement avec mon ado, puis je me suis branché sur Snapchat parce que c'est la façon la plus simple de s'échanger des choses.
Uh-huh.
Puis des fois, je lui demande, bon, hey, t'es où, mon grand? Dis, ah, on est à tel terrain, on joue au soccer. Envoie-moi donc une petite photo, voir.
Ouais. T'sais?
Puis là, quand il revient, j'ai dit, je trouve ça plate d'être obligé de te demander une photo de t'es où, mais tu m'as menti une couple de fois, puis là, je sais plus, là. Tu sais, en tant que parent, je suis comme...
Et c'est parfait.
Ah ouais, OK. Moi, je me sens pas bien là-dedans.
Et surtout, c'est parfait avec cette attitude-là.
OK.
L'attitude que tu as là de dire, je trouve ça plate de devoir faire ça. Tu sais, je suis désolée, mais là, je sais plus trop si je peux te croire. Cette attitude-là, mm-hmm, authentique, je la trouve magnifique.
OK.
C'est une attitude condescendante, en disant, ouais, mais t'aimes pas ça, hein, faire des photos? Bien, regarde, t'avais rien qu'à pas me mentir. Moi, là, regarde, sûr que si je suis là-dedans, là, c'est écrasant.
Moins bienveillant.
Là, c'est
d'ailleurs, des attitudes comme ça, est-ce que ça peut simplement provoquer le mécanisme du mensonge?
Ben oui. Plus je serai contrôlant comme parent, plus mon jeune, s'y étouffe dans le contrôle que j'ai, va essayer de se gagner des libertés.
De son côté. Là.
Ben oui, c'est ça. En contournant la réalité. Plus je serai, j'allais dire condescendante, mais c'est pas ça, mais plus je serai écrasante ou plus je serai culpabilisante dans mon propos, plus mon jeune, pour se défendre, pour protéger son ego, va mentir pour pas que j'ai une mauvaise opinion de lui. Plus je suis capable, tu sais, moi, s'il y a quelque chose que j'ai adoré, là, ma fille, à un moment donné, vers 13 ans, 13-14 ans, elle me dit, bon, ben, c'est la remise des bulletins, puis là, je peux pas y aller. Puis je dis, écoute, Manu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au restaurant, puis tu me diras ce que tes profs auraient dit. si je les avais rencontrés. Fait que sa chum a dit, hey boy, elle dit, moi, je pourrais pas faire ça avec mes parents. Elle dit, parce que là, j'avais dit, on finira en soirée au cinéma. Fait que sa chum a dit, hey boy, moi, je pourrais pas faire ça avec mes parents, dire ce que les parents disent, ce que les profs disent de moi. Et ma fille dit à sa chum, ma mère, elle pense pas de même. Fait que sa chum, elle dit, comment elle pense ta mère? Elle dit, ben moi, elle se dit que si mes profs ont une mauvaise opinion de moi, ben je vais avoir à subir les résultats de ça. Elle n'a pas besoin de m'engueuler par-dessus.
Ouais.
Et sa chum de répondre, waouh, t'es chanceuse, ça veut dire que tu peux y dire la vérité à ta mère.
Oui, hein?
Ouais.
Fait que tu sais,
chapeau en passant.
Les fois où ma fille l'a échappé, hein, écoute, je fais pas des enfants parfaits parce que je coach familial. La fois où ma fille ou mes beaux-enfants l'ont échappé, qui ont fait des gaffes, des fois, ils me disent, hey, tu sais, je pense à mon beau-fils, qu'à un moment donné, il a fait une grosse connerie. Il dit, hey, tu dois pas être fière de moi, Nancy. Mais ça n'a rien à voir avec la fierté. Tu es une bonne personne, tu fais des conneries, ça veut pas dire que tu es.
Bad luck,
con.
Ça arrive.
Puis, ben écoute, tu n'es pas le premier à faire des niaiseries à l'adolescence. Tu vas en tirer tes leçons. J'ai totalement confiance en toi que tu vas. Cheminer, comprendre, etc. Fait que quand j'engueule mes parents, mes enfants, et que je suis tout le temps dans « ben voyons, ça n'a pas d'allure ce que tu as fait là, puis là, je suis pas fière de toi », puis ça, ben c'est là où je risque de nourrir le mensonge.
Il y a un texto qui est entré qui nous amène vers l'inverse. Ce qui pourrait arriver si un enfant a tellement peur de ses parents qu'il n'est pas capable de mentir. Comment tu trouves l'équilibre là-dedans?
Ah, je trouve ça intéressant. Moi, dans le fond, je vois pas trop l'intérêt de mentir. Je vois pas trop l'intérêt à quel point...
C'est pas une aptitude qu'on a développée nécessairement dans la vie.
Ben non. Maintenant, qu'un enfant ait peur de ses parents, je trouve ça triste.
Ouais.
Tu sais, je trouve ça triste qu'un un jeune ait tellement peur de ses parents qu'il n'ose pas faire aucun écart. Comment ça se règle? Bien, ça se règle en aidant les parents à avoir peut-être des méthodes éducatives qui sont moins coercitives, qui sont moins culpabilisantes. Et voir avec le jeune aussi, bien, il a peur de quoi exactement? Y a-tu peur d'être frappé? Y a-tu peur d'être puni?
Peur de
la
conséquence,
il a peur de décevoir?
Ouais.
Y a-tu peur d'être rejeté? Y a-tu peur de... Tu sais, qu'est-ce qui lui fait peur exactement? Puis tu sais, mon dernier point aussi là-dessus, c'est comme parent. Moi, est-ce que je mens à mes enfants?
Ouais.
Tu sais, moi, je le vois très tôt, là. Ah non, maman, elle peut pas te l'acheter, le chip, hein? Elle a pas de sous.
T'sais, ouais, mais c'est pas un pieux mensonge, ça?
Non, c'est un mensonge. Je veux pas t'acheter les chips parce qu'on est en pleine semaine puis parce que ça n'a pas d'allure, t'as eu assez d'affaires aujourd'hui. Mm-hmm. Assumez-vous, c'est les parents.
Okay.
On n'en a pas de chips à maison, mais quand l'enfant est couché, je les mange à cachette. Tu sais, je veux dire, fait que si vous mentez à vos enfants quand ils ont 3 ans, 5 ans, 8 ans, pour vous éviter de devoir faire votre job de parent...
On a un peu ce qu'on mérite.
Exact. Ouais. Ça sera peut-être juste le karma.
Mais c'est pas évident. Hey, merci Nancy.
Ça me fait plaisir.
SOS Nancy, coach familial, comment vous gérez le mensonge avec vos enfants, avec vos ados. 418-971-1021. Vous êtes à Boulevard.
Pour joindre l'équipe de Gravel dans le retour.
Dans le monde merveilleux des slogans, il y a des choses qui résonnent, il y a des choses qui nous appellent. Il y a des choix de mots qui nous disent absolument rien. Je sais pas comment vous le trouvez, vous autres, le slogan du Parti québécois, mais pour moi, c'est... ça passe dans le beurre complètement. C'est vraiment... Je l'aime pas. Le choix de la confiance.
Mais ça fit avec la campagne qu'ils ont lancée au courant de la dernière semaine. Là, un gouvernement qui fait ce qu'il dit et puis dit ce qu'il fait.
Oui. Le choix de la confiance, c'est comme, je sais pas, vivre son chemin ou... on dirait une phrase vide. Je l'aime pas.
Ça aurait pu être les bottines qui suivent les babines. Là. C'est dans le sens qu'il aurait pu, trouver quelque chose d'un peu plus original.
Faites le choix de la confiance. Se faire confiance en tant que peuple, c'est...
L'autobus de campagne du PQ qui porte ça avec le visage de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est Radio-Canada qui a dévoilé ça aux environs de 17 heures. Puis on dit que l'objectif est de marquer une rupture avec les deux mandats du gouvernement de la CAQ qui pouvait dire une chose puis faire exactement l'inverse. Fait que ça revient à ce que je te disais là, sur la campagne de publicité.
Oui.
Ça va être dur de le porter, je pense.
Moi, j'ai hâte de voir le slogan de la CAQ. Là.
L'équipe Christine Fréchette.
Oui, ou désolé.
Parce que là, il faut qu'ils s'en aillent de continuons.
Oui, c'est ça. Il faut que tu ailles vers le changement, mais en même temps, tu portes.
On se donne la fréchette.
La quoi?
Non, on te donne le go avant.
Ouais, ouais. Non, ça marche pas.
Non. On s'en va ailleurs.
On s'en va ailleurs.
On reprend le volant.
C'est pas fou, ça.
Reste avec moi.
On reprend le contrôle. Ouais.
Parlant de reste avec moi, vous rappelez que Benoît Charrette, l'actuel ministre des Transports, a dit moi, je reste pas. Ça a été annoncé cet après-midi sur les médias sociaux. Il a choisi de ne pas se représenter finalement à la prochaine campagne qui débute la semaine prochaine pour des raisons familiales.
Dans la circulation, Audrey.
Ça commence à être tannant sur les routes à cette heure-ci. Là. Si vous êtes sur la capitale Est, c'est encore super difficile entre Henri IV et Laurentienne. Ouest, c'est concentré dans le coin de Laurentienne. Robert Bourassa, direction Nord, c'est pourri. Là. Entre Charest et la capitale, c'est super lourd. D'ailleurs, Charest, direction Est, entre Henri IV et Robert Bourassa, ça démarre pas non plus. Si vous êtes sur Henri IV Sud, la capitale, au pont, très au ralenti, du Plessis Sud de Charest, au pont. Quand on s'en va, ça arrive sud, la 73 direction nord pour tenter d'aller chercher le pont La Porte. Là, à partir de Beaulieu, ça ralentit. Sans y avoir un incident d'ailleurs vraiment à l'entrée du pont là, si vous êtes sur la 73, ce qui n'aide probablement pas le trafic actuel. 20 direction ouest, c'est entre Monseigneur Bourget et Taniata. Est, entre Chemin du Sceau et Taniata. Si vous êtes sur Guillaume Couture du Haut-Travaux, ça ne bouge pas non plus entre Chemin des Îles et Taniata et sur Chemin des Îles, justement, entre Guillaume Couture et Lavin. Toujours difficile. Sans oublier le rond-point, là, le carrefour giratoire dans le coin de Saint-Henri.
Qui est en fait un détour de ce
non,
qu'on comprend.
Non. OK, on ne se relance pas dans les explications.
Mais c'est dû
je
à un
vous
détour.
En prie.
C'est dû à un détour.
C'est des gens qui essayent d'éviter la circulation, qui ont des travaux, puis ils vont congestionner un secteur qui n'est pas fait pour accueillir autant de véhicules.
Exactement. Donc, dans ce coin-là, sans blague, là, route du président Kennedy qui devient après le carrefour giratoire rue commerciale, c'est difficile.
On nous propose comme slogan de la CAQ « Chérie, va-t'en pas, je vais changer ».
Ou juste je vais changer, ça me
c'est
prendrait.
Très bon.
Je vais changer, promis. Hey, pour vrai, ça, un peu d'humour là, ferait probablement énormément de bien.
Parce que oui. Hey, c'est quoi que tu nous as envoyé cet après-midi, Audrey, sur le monde qui se marie, mais qui se marie pas vraiment?
Hey, c'est vraiment particulier. Ça fait quelques fois que je vois ça passer sur les réseaux sociaux, sur les différents spotettes de ce monde. Et là, je pense que c'est sur Spotette Val-Bélair que j'ai vu ça un matin. Des animateurs qui font une présentation pour dire « Hey, en gros, tu veux te marier sans te marier, ben on est ta référence. » Fait qu'eux, ce qu'ils proposent, c'est de faire la demande en mariage, les invitations, le party, la cérémonie, la réception, 200 000 piastres finalement dans le feu, là, mais sans papier légaux.
Sans le contrat de mariage.
Sans le contrat.
Et les obligations qu'il y en a avec,
exactement,
le patrimoine.
Okay. Les gens qui ont peur de ça. Moi, j'ai été pendant plusieurs années avec quelqu'un qui ne voyait pas l'utilité du mariage, entre autres pour le volet légal qui ne l'intéressait pas pantoute.
Pour moi, il y a Vegas qui existe pour se marier sans les contraintes du contrat de mariage.
Ben, je pense que l'idée vient un peu de là, de se dire, hey, regarde, si c'est ce qui t'intéresse, c'est le party puis le rassemblement avec ton monde, puis on peut le faire sans que tu aies nécessairement à légalement t'engager.
C'est-tu la même chose si ça compte pas?
Moi, je pense que non.
Je sais pas. Je
pense que non plus, pour être honnête. Ceci dit, je comprends l'attrait. Parce que moi, ce qui m'intéresse de base dans un mariage, c'est le fait de réunir nos familles puis les gens qu'on aime profondément.
Ouais.
Puis de célébrer pas juste notre amour et notre union, mais l'amour de tout ce beau monde-là. Je sais
pas, tu peux faire juste un party. Là.
Mais là, dans une cérémonie comme ça, là, tu gardes le décorum. Il y a une robe de mariée.
Tu fais
toute la patente.
Lancer du bouquet, jarretière, tout. Écoute, l'animateur.
Y a-tu le voulez-vous prendre pour époux? Puis tout
ça.
Ah ouais, OK. Fait que tu fais tout, mais fake.
Puis ton célébrant n'est pas obligé d'avoir fait son cours,
ben
justement.
Ben non, ça
j'imagine.
Obligé,
il n'y a pas de droit.
Fake un mariage. Mais dans ma tête, le mariage, c'est un engagement. Puis tu sais, je sais qu'il y en a qui se marient sans penser à l'engagement du contrat de mariage. Pour moi, c'est la même affaire que quand tu décides d'avoir des enfants. C'est un engagement pour vrai. Faker un mariage pour le party en faisant tous les éléments. Moi, ça, tu vois, je suis comme... Tu cheats,
ça t'amène une question. Tu sais, si tu veux me marier, mais tu veux rien savoir qu'on signe des papiers légaux. je me dis à quel point tu as vraiment confiance en notre relation.
Il y a quelqu'un qui nous dit nous autres, on a fait comme un baptême, mais sans baptême. Pour moi, c'est pas pareil. Tu sais, le baptême, c'est l'engagement envers une religion, puis je trouve ça terrible qu'on ne demande pas l'avis d'un enfant pour pouvoir faire ça.
Oui, mais... bien, le baptême a été inventé pour ça, là, pour embarquer du monde dans une religion contre leur gré. Là.
Mais tu sais, de célébrer la naissance d'un enfant, pour moi, c'est pas la même chose. C'est comme...
Mais encore,
c'est
là...
C'est là, c'est précieux, t'sais... c'est... Faker un mariage!
Bien, faker un mariage, ça dépend des circonstances. Moi, je me dis, dans une famille où... Tu sais, t'as des, mettons, une famille reconstituée, là, où t'as des jeunes ados, puis que tu veux les voir habillés propres une fois dans ta vie, puis tu veux célébrer le fait que, mettons, ça fait 5-6 ans qu'on est ensemble. Ben, je sais pas. C'est, le côté légal du mariage repousse bien du monde, à la base.
La question est bonne. Tu proposes ça comment? Chérie, veux-tu m'épouser, mais juste à semblant?
On joue, OK? On joue.
Chérie, veux-tu faire semblant de m'épouser?
Mais tu sais, le pire, c'est que ça me fait rire parce que dans la publication, c'est Spotted Shannon en passant, OK? On va comme suit. Vous voulez vous marier sans vous marier? Oui, ça se peut. Vous voulez la cérémonie, les vœux, l'entrée des amoureux, la musique, les alliance, les témoignages, les larmes de ma tante, party, gâteau, mais pas d'obligation légale. Pourquoi pas célébrer votre amour avec un mariage symbolique sans paperasse? Et là, vous comprendrez que ça finit plus de finir le poste, là. Mais tu sais, je suis un peu à la même place. Moi, demain matin, tu me demandes en mariage, mais tu me dis, seule affaire, c'est que moi, je suis pas à l'aise qu'on le mette légal. C'est ça. Je me pose des questions sur le sérieux de la chose.
Viens rester avec moi, mais je te donnerai pas la clé.
Non, mais c'est ça, exactement.
Ouais, mais mettons.
Tu peux venir juste sous invitation.
mais mettons que tu es avec quelqu'un qui veut pas se marier. Go, fait. Moi, j'étais. Mon ex voulait pas se marier. Puis moi, j'aurais aimé ça à un moment donné, faire une petite cérémonie, quelque chose. Ça peut peut-être être un compromis. Acceptable ou intéressant, je sais pas. Puis en même temps, je suis un peu d'accord avec la personne qui vient de texter. Tu sais, tu parlais du baptême.
Oui.
La différence entre les deux, la personne nous écrit, baptême, c'est différent. Nous autres, on nomme un parrain, une marraine sans cérémonie religieuse. Ça donne deux adultes qui vont avoir un lien privilégié
absolument
avec l'enfant.
Absolument.
Beaucoup de respect pour ça, by the way. Mais là, cette personne-là dit un mariage qui est pas légal, c'est juste totalement inutile.
Mais c'est pas un mariage.
Parce
que l'objectif du mariage, c'est effectivement, c'est plate, là, mais c'est d'unir deux patrimoines.
Mais
c'est
totalement.
C'est carrément.
Mais tu vois,
c'est de protéger l'un et l'autre à travers tout ça.
Nancy Doyon vient de nous quitter, puis elle nous écoute encore, puis elle vient de m'écrire, elle dit, Boboy, moi, je suis tellement pour ça, un mariage sans truc légaux. On célèbre l'amour, on s'engage affectivement, mais pas financièrement. Écoute, peut-être qu'il y a des gens à partir d'un certain âge qui rêvent de ça, puis je peux pas juger à quelque part ça, mais moi, je rêverais pas de ça, personnellement. Ouais. Parce que ça change, on s'entend-tu que ça change pas le prix en plus, là, je veux dire?
Non, mais moi, c'est ça. Moi, j'aime mieux... tu sais, je préfère un mariage intime, mais qui est pour de vrai, qui coûtera pas cher, qui va être à invitation réduite.
Versus brûler de l'argent pour un pas vrai mariage.
Ouais, ouais. Puis en même temps, il n'y a pas juste une recette pour faire un bon gâteau, je le dis souvent, là, tu sais. Ouais. Ça dépend de quoi tu as besoin. Puis.
Tu sais, il y a des gens qui ont été échaudés hein, dans certaines relations, puis peut-être que pour eux, c'est une façon de démontrer de l'affection puis de l'amour sans plus.
Et tu sais, c'est comme... Après combien de mariages d'une même personne, tu commences à dire que finalement, le mariage, ça n'a pas tant de valeur? Comprenez-vous ce que je veux dire?
Je comprends.
Il y a quelqu'un qui dit, c'est comme se faire installer du gazon artificiel puis acheter une tondeuse après.
Ouais. C'est sûr que l'image est forte, là. Le pire, c'est que, tu sais, rendu là, à mon sens, moi, j'ai des amis qui se sont fiancés parce que la blonde voulait donc bien vivre ce moment-là dans sa vie.
Juste la fiançaille, pas le mariage.
Mais exactement, mais le chum, lui, tenait pas à se marier.
Ah, moi, j'ai des fiancés éternels autour de moi, puis c'est magnifique, hey, là. Ouais, ça a été une belle demande à mariage, puis tout.
À limite, tu fais un genre de party d'engagement. Il y en a qui font ça, des parties de fiançailles à la maison, tu sais.
Tu sais, il y en a qui... Il y a des filles pour qui le rêve de la robe puis de la bague, c'est peut-être plus gros que le rêve du mariage en tant que tel.
Oui, mais il y a l'Halloween.
Non, mais c'est pas...
Il y a Vegas.
Non, c'est le Saint... Non, mais ça, c'est
on dirait
vrai
que j'ai pas le goût de juger la façon que les gens ont le goût de s'unir. Oh, tu sais, ouais. Je sais pas.
Mais moi, mais non, mais t'as 100% raison. Je me rends compte que... Honnêtement, personnellement, Bon, là, de toute manière, je suis enceinte, le patrimoine légal, là, il est pogné avec, là. Mais je veux dire, mettons qu'on recule puis ça n'existe pas, là. Tu sais, légalement, moi, de base, je m'en fous un peu. Je pense que je pourrais être fiancée éternelle avec juste un petit engagement party à la maison, là, puis je serais heureuse. T'sais, je pense que c'est vraiment le principe de l'événement, puis je comprends que les gens qui ont besoin de ça dans leur vie. Moi, c'est plus le, mon Dieu, dépense pas 150 000 pour être sûr d'avoir la robe puis toutes les étapes. Là.
Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que maintenant, t'as plein de façons de le faire. Avant, t'en avais rien qu'une. Ça passait par la religion, ça passait par l'Église. Il y a plein de monde qui se mariait obligé, qui s'aimait même pas. Là, t'as comme plein de possibilités, puis ça, c'en est une. Qui peut plaire à certaines personnes, qui peut plaire à bien du monde, je sais pas. Mais maintenant, tu peux faire à peu près ce que tu veux, tu sais. Puis c'est
vrai.
C'est ça qui est important.
Puis il y en a déjà qui le font séparer, hein. Il y en a déjà qui vont faire des célébrations sans papier, puis qui vont y aller tout seul chez le notaire. Mettons, faire un papier, là. Puis c'est chez le notaire que tu fais ça, à la ville, ouais, c'est ça. Puis l'inverse est aussi vrai. T'en as qui, plus jeunes, pour plein de raisons, vont se marier directement au palais, puis qui vont faire des célébrations plus tard.
Toi, tu vas revenir d'un voyage à un moment donné, tu vas être marié, puis tu vas l'annoncer à ton monde?
Absolument pas.
Non?
Non.
OK.
Mais quand j'étais plus jeune, je me disais ça, je vais me marier à Vegas, je le dirai pas, je vais organiser un party d'Halloween, je vais être déguisée en mariée. Mais ça, je vis.
T'as perdu
le thrill de ça.
Mais mettons, demain, ton chum te demande en mariage. Là.
Tu fais quoi?
Mais là, c'est ça, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, mais projette-toi dans 2-3 ans.
Idéalement, non. Mais s'il le faisait, ce serait oui, mais ce serait fiancée éternelle. Là. Je ne me marierais pas.
Tu ne tiens pas à avoir la grosse patente.
Encore là, s'il veut te marier, je t'ai vu faire avec, tu vas dire oui, voyons donc.
La plus belle demande de fiançailles que j'ai vue, c'est le mari d'une de mes amies qui lui avait organisé la veille de Noël une chasse au trésor chez eux. Personne d'autre. Puis au fur et à mesure, il y avait des indices, puis à la fin, c'était la bague de fiançailles. Pas de party, pas de monde auto. Oui, on finit par se marier pour un tas de belles raisons, mais à la base, pour moi, c'est beau les amis, c'est beau gérer ça avec tout le monde.
Bon.
Mais une relation entre deux personnes, c'est privé. Puis pour moi, c'est cet engagement-là qui est le plus précieux. Puis Audrey a les yeux pleins d'eau quand je raconte la chasse au trésor.
Non, mais c'est, je me suis rendu compte quand tu as dit ça, puis là, ça va sonner tellement quétaine, mais je me suis rendu compte que ça va vraiment sonner quétaine. C'est peut-être les hormones. Mais j'ai toujours rêvé d'une demande, je vais dire plus publique. On s'entend quand je dis public, c'est mettons, t'es à Noël.
À la radio.
Non, vraiment pas. Mon Dieu, ne me faites jamais ça.
Sur Facebook, dire qu'il est en couple
non.
avec.
Mais tu sais, mettons, les Noëls où il y a une demande, genre. Pis
devant la famille, puis tout.
Ouais, j'ai toujours, on dirait, rêvé de ça jusqu'à je réalise par ton histoire maintenant où je pourrais pas être plus épanouie de le vivre seul avec mon amoureux.
Je te le dis, de toute les demandes de fiançailles que j'ai vues autour de moi, puis il y en a que ça a été vraiment extravagant, puis beau, puis c'est génial. Mais celle que je retiens le plus, c'est celle-là. Oh, puis quand elle a appelé, puis qu'elle m'a dit « T'es-tu assis? »
Oh mon Dieu!
Il m'a demandé en mariage. C'était magnifique.
Mais c'est sûr que ça a bogué à un moment donné parce qu'elle ne trouvait pas un indice, puis ça a duré 2 semaines, là, la chasse au trésor.
En fait, c'est
bon.
Ça. La chasse au trésor a commencé au mois de novembre, mais c'est fini la veille de Noël par accident.
Il a fallu qu'il achète à un moment donné un livre d'indices.
Non, franchement. Mais c'est magnifique, par exemple.
Faut-tu faire un faux divorce quand on a fait un faux mariage? Parce que de ça, tu as les parties de divorce aussi maintenant. Là.
Ça existe,
c'est
ça?
C'est vrai.
Quelques personnes. Oui.
Comment tu fais ça, un party de divorce? J'imagine que tu le fais pas ensemble.
Ben non, idéalement, c'est vraiment, il y a deux parties de divorce.
Ouais, parce qu'un party de divorce avec tout le monde, c'est un peu dur à organiser. Hein,
c'est comme les bachelorettes, là, puis les soirées de gars, là, puis c'est la même gang qui s'occupe d'organiser le party de divorce.
Il est à 17h41, vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour. Les tarifs. On est rendu où, Véro?
On n'a toujours pas de nouvelles. Depuis 16h30, il y avait une rencontre entre Mark Carney et les premiers ministres, premières ministres des provinces et territoires pour... c'est un brefage technique, en fait. Là. C'est pour leur faire part de ce qu'il y aurait à l'intérieur de l'entente Canada-États-Unis, mais les détails comme tels n'ont pas circulé. Mais effectivement, il y a un accord avec Washington qui est sur la table, qui pourrait être signé plus tôt que tard, du côté de Donald Trump, plus tôt aujourd'hui. Il avait dit que c'était quelque chose de très équitable des deux côtés, qu'entre autres, les agriculteurs américains allaient être très, très, très contents. Fait que si on a des petites craintes pour la gestion de l'offre. Mais actuellement, c'est ce qu'on surveille, là, les premières réactions, entre autres, de Christine Fréchette pour ce qui est du Québec.
Conte-nous donc l'histoire de meurtre un peu particulière qui a été élucidée par un membre de la famille qui est allé plus
c'est
loin
capoté.
Que le coroner. C'est spécial, cette histoire-là.
C'est vraiment spécial. Puis j'aimerais ça qu'un jour, on ait la suite de cette histoire-là. Puis je faisais le parallèle plus tôt aujourd'hui que c'est très Only Murders in the Building, la série de Disney où il y a un meurtre dans un immeuble cossu de New York. Les policiers mettent ça dans le dossier affaires classées, mais trois résidents de l'immeuble ont comme nanana, nous autres, on pense qu'il y a un crime derrière tout ça et ça part de même. C'est une histoire qui débute en 2022. C'est une femme de 81 ans, Rolande Ducharme, une madame en pleine forme qui reste dans une résidence pour aînés au rez-de-chaussée. Très important dans l'histoire, mais quand je vous dis qu'elle est en forme, là, elle fait du bénévolat. Elle s'occupe de sa mère de 103 ans.
C'est où l'histoire? Hein?
C'est du côté de Montréal. Okay. C'est dans le secteur de Montréal que tout ça s'est déroulé. Puis, à un certain moment donné, on retrouve Madame Ducharme, morte dans son appartement. Les policiers qui observent des blessures au visage, il y a du sang sur le mur. Le coroner recommande néanmoins de ne pas tenir d'enquête policière. C'est un texte qui est paru dans la presse plus tôt aujourd'hui. On classe cet événement-là comme étant un accident. Et le lendemain du décès, il y a la nièce de la victime, elle s'appelle Edith Perrault, qui est arrivée sur place. Et là, elle se rend compte qu'il y a des affaires qui ne tiennent pas la route. Entre autres, elle voit qu'il y a des canettes de bière dans le lavabo, alors que sa tante ne boit pas, qu'il y a un miroir ensanglanté au sol, qu'il y a un coffre-fort qui est entrouvert. Et ce qu'elle a fait...
Mais là, pourquoi elle a tout vu ça? Puis le coroner puis les enquêteurs, eux autres, ils n'ont pas vu ça.
Ça, c'est le bout de l'histoire qu'on ne sait
pas.
Puis j'aimerais savoir. Je veux une suite.
On dirait que quelqu'un a peut-être fait de l'âgisme en disant « Bon, ben à l'âge qu'elle est rendue, on commencera pas à prendre des ressources pour faire une enquête. »
Je voudrais tellement savoir.
C'est
puis
weird.
Quand elle a constaté ces éléments-là, elle a enfilé des gants et elle a filmé toutes ses démarches. Entre-temps, il y a une résidente du secteur qui a découvert dans un buisson deux couteaux cachés sous une couverture près de l'établissement.
Ils les avaient pas trouvés, les policiers.
Fait que 5 jours après le décès, finalement, le coroner demande de relancer l'enquête après avoir discuté avec la nièce. Et quand on fait l'autopsie, Rolande Ducharme a été poignardée à une trentaine de reprises.
Voyons.
Au cou, au thorax et à la tête, tu sais, les blessures accidentelles.
Ben oui, mais...
elle avait même une plaie de 21 cm de profond. Ses bras étaient lacérés de plaies de défense.
Il y a clairement un coroner qui n'avait pas le goût de travailler. Là,
la juge, quand elle a prononcé sa sentence, mais aujourd'hui, elle a déclaré quelqu'un de coupable, elle a dit « Je ne fais pas le procès du coroner, mais qu'on pense que c'est un accident et qu'on me décrit les blessures. » Mais là, j'imagine qu'il va y avoir des plaintes plus loin. Et en remontant l'histoire, ce qu'on s'est rendu compte à travers tout ça, c'est que pas loin de là, il y a une femme, Élise Canneville-Proux, qui s'était retrouvée à l'hôpital Sainte-Cabrini, puis elle est presque ressortie aussitôt de l'hôpital. C'est une femme, de ce qu'on peut comprendre, qui avait été hospitalisée en psychiatrie à de nombreuses reprises depuis les 20-quelques dernières années pour des épisodes de psychose induite par la consommation de drogue. Elle a reçu un diagnostic de schizophrénie en 2022. Puis de ce qu'on sait de l'histoire, c'est que c'est elle qui a tué la femme en rentrant dans son appartement au rez-de-chaussée. Elle a été reconnue coupable. Elle va avoir sa peine plus tard au mois d'octobre.
Coroner a perdu sa job, là.
J'ai aucune espèce d'idée. Puis là, la juge, elle s'appelle Hélène DiSalvo, là, la juge, puis c'était mardi matin au Palais de justice de Montréal. Elle s'est adressée à la nièce dans la salle en disant « Madame, vous êtes extraordinaire d'avoir poussé l'enquête vous-même. J'ai les genoux coupés. Vous m'avez permis de repartir une enquête en 14 ans sur le banc et des années comme procureur. Je n'ai jamais vu ça. Je suis franchement impressionnée. » Mais, tu sais, de savoir qu'il y a un coroner qui avait classé ça dans « accident », quels étaient les éléments que cette personne-là avait entre les mains?
T'as dit combien de coups de couteau, excuse-moi?
C'est
là.
41 coups de couteau.
À 41 coups de couteau, ouais, c'est ça, là.
Prends pas tête à Papineau, là.
À moins que tu sois
une trentaine de coups de couteau par an.
Ouais, à moins que tu sois enfargé d'un lave-vaisselle plein, là. Je veux dire, comment... Audrey, j'essaie de trouver une façon que ça peut arriver, que quelqu'un arrive à la conclusion, mais c'est un accident.
Fait que, tu sais, moi, je veux la suite. Tu sais... Il y a une femme qui va se retrouver en prison,
oui.
Qui sera encore dans les rues si la nièce de la dame avait pas vu des évidences très évidentes.
Ou c'est-tu plus courant qu'on pense quand c'est des histoires de personnes
ça,
âgées
c'est
ou je sais pas. Là.
On botche-tu des affaires quand on se dit bah, de toute façon, elle était vieille?
Ouais.
Il y a bien des questions à se poser dans cette histoire-là.
C'est weird en tabarnouche. Il est 17h50.
Le rock'n'roll a vu le jour dans les années 50. De l'invasion britannique en passant par le prog, le hard rock, le grunge et le rock des années 2000. Du vinyle au streaming, voici l'histoire du rock dans Gravel dans le retour.
Dans l'histoire de la musique, il y a des gens célèbres, il y a aussi des gens tristement célèbres. C'est le cas du producteur américain Lou Pearlman, qui est décédé un 19 août 2016 à l'âge de 62 ans, un arrêt cardiaque. C'est un gars qui a été le manager des Backstreet Boys et de NSYNC, entre autres choses. Et en 2006, il a été accusé d'avoir monté un des plus gros schémas de Ponzi, une gigantesque fraude où il y a 300 millions de dollars qui ont été fraudés. Il a été arrêté, il a plaidé coupable et en 2008, il a été sentencé à 25 ans de prison. Et c'est là qu'il est décédé, un 19 août 2016. Il y a un bon documentaire sur Netflix, je crois.
Dirty Pop,
ouais, qui nous raconte l'histoire de Lou Pearlman. C'est rendu tendance, les concerts sans cellulaire, et ça donne des résultats vraiment agréables pour les spectateurs. Entre autres, Ghost l'a fait dans sa dernière tournée, Jack White l'a fait avant. Mais en 2014, elle a été précurseur de tout ça. Un 19 août 2014, Kate Bush demande à ce que pendant sa tournée, personne n'enregistre de séquences, personne ne prenne de photos. La chanteuse, alors âgée de 56 ans, disait « J'aimerais beaucoup vivre un contact privilégié avec vous en tant que foule et non pas par l'entremise de vos iPhones, de vos iPads ou de vos caméras. » Un 19 août 1971, début d'une tournée pour Led Zeppelin. Du côté de Vancouver, au Pacific Coliseum. Ça a bien été en dedans. Le show était sold out, 17 000 fans sur place. Par contre, à l'extérieur, c'était le bordel. 3 000 fans de Led Zeppelin qui n'avaient pas eu de billets ont commencé une émeute et se sont battus avec la police pendant le spectacle. Je vous dis qu'un 19 août 1967, les Beatles ont eu leur 14e numéro 1 sur le Billboard et c'est une chanson où on entend énormément d'invités. Mick Jagger chante, Keith Richards chante, Eric Clapton est là, Keith Moon, Graham Nash, Marianne Faithfull. Quelle est cette chanson? C'est All You Need Is Love. Nothing you can make. Du côté des anniversaires, c'est la fête aujourd'hui de John Deacon, qui est le joueur de basse pour la formation Queen. Et Queen, on a l'impression que c'est le band de Freddie Mercury puis que les musiciens sont un
peu
secondaires et accessoires. Alors que John Deacon a composé plusieurs hits pour Queen, dont I Want to Break Free, You're My Best Friend et leur plus gros succès à vie, Another One Bites the Dust. I Anniversaire aujourd'hui également, 81 ans pour un des chanteurs les plus impressionnants de l'histoire du rock. Ian Gillan, chanteur de Deep Purple, qui a déjà été un membre de Black Sabbath et qui a joué et interprété le Jésus original de la comédie musicale Jésus-Christ Superstar. Ah oui! Anniversaire posthume pour terminer. Il est né un 19 août 1939, un des plus grands drummers de l'histoire du rock et même de l'histoire de la musique. Le très exubérant Ginger Baker. Le batteur mythique de la formation Cream. Peut-être encore un peu de pluie pour ce soir et cette nuit. On reste dans les nuages et le brouillard, minimum de 13 degrés. Demain, alternance soleil-nuage. 40% les risques d'averses en après-midi. Puis après ça, ben, c'est dégagé pour notre soirée baseball du côté du stade Canac avec la gang de Boulevard et les Capitales. Vendredi, soleil 24 et samedi, variable, pas d'averse, maximum de 25. Audrey?
Il y a encore des problèmes si vous êtes sur la capitale Est, hauteur Robert Bourassa. L'entrée des ponts direction Sud, c'est toujours difficile. Henri IV, ça se passe à partir de Wilfrid Hamel, Duplessis à partir de Charest. Et à la rive Sud, c'est toujours compliqué sur la 20 Ouest entre Monseigneur Bourget et Chemin des Îles. Et sur Guillaume Couture, entre Chemin des Îles et Taniata.
Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. Demain, 7h55 dans le Pit Stop, 14h, avec les demoiselles dans le retour.
Salut. Bye! Salut!